Quartier Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 17e émission de Quartier Libre au festival Jazz in Marciac. Oui, déjà, on est samedi 3 août et demain signe le dernier jour de cette 46e édition du festival Jazz in Marciac. Et comme tous les jours depuis le 17 juillet dernier, Quartier Libre Média Culturel qui parcourt la France à bord de son camion studio de radio vous propose des émissions à la rencontre des artistes du festival. Aujourd'hui, pour cette émission de Quartier Libre, nous avons la joie de recevoir la star de Marciac, Nico Wayne Toussaint, qui était attendu, on était là, tout le monde était autour de toi, t'attendais, voulait des signatures, c'est beau. Bienvenue et merci d'être avec nous.
Bonjour Agathe, bonjour à tous là-haut sur la place et tout.
Ah, il y a eu quelques petits applaudissements, merci pour ceux qui suivent. Donc je disais oui, star, parce que hier on m'a demandé plein de fois, alors quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il joue. Donc t'étais vraiment attendu. T'as une grande carrière puisque t'as déjà 14 albums à ton actif, rien que ça. Tu joues de l'harmonica un peu comme personne, tu chantes aussi et t'as commencé à la guitare à l'âge de 19 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ou quelle était en tout cas ta première rencontre avec l'harmonica déjà?
En fait, j'ai commencé la guitare à l'âge de 49 ans.
Ah, pas du tout.
Et l'harmonica à 18.
Ah. Ah, ok.
Donc un peu différent. Ma rencontre avec le blues s'est faite à travers la marque de jeans Levi's. Parce que quand j'étais jeune, dans les années 80, il y avait une pub qui passait à la télévision sur un gars qui, au milieu de l'Arizona, il sortait comme ça dans une espèce de bar improbable. Il ouvrait le frigo. Il était presque nu. On aurait dit Schwarzenegger au début de Terminator. Et là, il y a le décor qui me tombe dessus.
Le décor qui te tombe dessus, désolé.
Et il ouvre un frigo, il sort un jean. Et il met ce jean là et il enfourche une moto. Il part dans la poussière du désert du Colorado. Et donc, et derrière, c'était une musique de blues. C'était Muddy Waters. Et il se trouve que donc, j'écoutais ça. Je me disais, oh, c'est trop bon,
c'est trop bon,
l'Amérique, tout. Et un jour, je me suis rendu compte que mon père avait ce disque. Et je l'ai posé, j'avais 15 ans. Et clac! Je me suis dit, oh, mais c'est incroyable, c'est exactement la musique de la pub. Et en fait, ça m'a vraiment harponné. Et à partir de là, j'ai fait un long travail de remonter le fil, d'aller à la pêche, en fait, aux noms, aux informations, investir de l'argent dans des disques. Parce qu'à l'époque, Spotify n'existait pas. Donc, si on voulait enrichir sa discothèque, il fallait acheter ou alors aller à la bibliothèque éventuellement. Et donc voilà, ça a été tout un long travail de recherche et de découverte de cette musique. De parfois s'engager dans des courants, dire ah non ça j'aime pas du tout, on fait marche arrière, ah ça j'adore. Et puis voilà, on découvre les noms des musiciens, on se rend compte qu'ils ont tous une carrière individuelle, qu'ils ont tous fait des disques sous leur nom. Et comme ça, on développe sa culture en quelque sorte.
Voilà. Et toi tu viens d'où alors?
Moi je suis né à Toulon et j'ai grandi dans les Landes et j'habite à Pau maintenant.
Et où est-ce que tu chinais tes disques alors? Raconte-nous.
On avait à cette époque-là, j'habitais Bayonne et on avait deux disquaires qui se tiraient un peu la bourre et un qui s'appelait Disco Shop. Et je crois que j'étais plus fidèle à Disco Shop qu'aux autres. Et donc c'est ça, j'allais regarder le truc et puis si je voyais que le gars il avait une bonne tête, j'achetais. Alors à l'époque j'étais lycéen donc je revenais à l'école avec un disque. Ou un vinyle, ou alors une cassette. Des fois, je n'avais pas d'argent, alors j'achetais juste le format cassette. Ou alors un CD après quand c'est arrivé. Et j'avais des copains, ils me disaient, mais pourquoi tu as acheté ce disque? Et je dis, je ne sais pas, je crois qu'il a une bonne tête pour jouer du blues. Et le gars, il me dit, mais t'achètes des disques parce que le gars, il a une bonne tête, ce n'est pas possible. Et donc, c'est vraiment, il faut aller à la rencontre. Quoi. Des fois, on fait des super trouvailles, et puis d'autres fois, c'est plus anecdotique, mais voilà.
Bah comme les livres, on peut aussi les prendre.
Exactement.
À la couverture. Hein.
Exactement, voilà, c'est ça.
Et la guitare, comment c'est venu à toi la guitare aussi tard? Pourquoi avoir eu envie de t'y mettre?
Parce que en fait, quand je crois qu'on aime le blues, on aime la guitare. Et j'ai rencontré l'harmonica grâce à un monsieur, à un gars que j'ai rencontré, j'avais 18 ans. Il en jouait extrêmement bien, il habitait juste à côté de chez moi, c'était un très très grand harmoniciste. Il n'est pas connu, mais il est à le niveau des plus grands harmonicistes auxquels on peut penser. Et donc, j'ai demandé s'il donnait des cours. Il m'a dit oui. Et donc, ça a été mon entrée dans la musique, en fait. Et j'ai adoré ça. Je suis rentré là-dedans, je pense, un peu comme dans du beurre. Et je me suis développé. Et puis, alors, du coup, j'ai pu jouer avec d'excellents guitaristes, des étrangers, des Français, au fur et à mesure des années. Et toujours, j'ai observé les guitaristes. Puis, comme c'est mon groupe, je les choisissais. Donc, je les choisissais pour ce que j'ai adoré qu'ils jouent. Donc, en même temps, mine de rien, j'observais beaucoup. Et au moment du confinement, ben, j'ai eu un peu de temps devant moi. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, voyons guitare. Voir. Et ça a pris. La mayonnaise a pris. Il y a d'autres fois où j'avais essayé, mais ça ne prenait pas du tout. Des fois, il faut attendre le moment.
Il faut avoir un moment de pause aussi pour pouvoir le faire.
Ouais, je ne sais pas, un truc. Il ne faut jamais désespérer. Hein,
un déclic.
Voilà, exactement.
Et le chant, alors, tu as toujours chanté ?
J'ai chanté, oui, avant même de commencer l'armo. Parce que je m'étais dit que je voulais jouer de la musique, non pas seulement l'écouter, je voulais en faire. Et je voulais jouer de la guitare dans ma tête. Et je me suis dit, avant d'apprendre, je vais m'entraîner à chanter des solos. Comme ça, quand j'aurai une guitare, je saurai déjà ce que je veux faire. Je lui ferai faire ce que je veux et non pas, je ne serai pas en train de faire juste de la guitare pour de la guitare. Et donc, j'ai toujours chanté sur les disques et finalement, ça m'a appris les structures, alors que j'ai pas d'éducation musicale, mais ça m'a appris en fait intrinsèquement le format blues, le découpage d'une séquence. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je le sentais en fait. Voilà.
Alors ta musique à toi, c'est le blues, qui est dans un esprit un peu Chicago blues. Ça a bercé beaucoup ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec les clubs de blues et comment ça a résonné chez toi dans ta musique ?
Donc, c'est une longue histoire.
On adore les longues histoires.
Je m'appelle Wayne aussi parce que mon deuxième prénom, c'est le nom de mon parrain. Il est américain, il habite à Minneapolis. Et quand j'avais 19 ans, je suis allé lui rendre visite et le premier week-end où je suis arrivé à Minneapolis, j'ai ouvert le journal. À l'époque, il y avait la liste de tous les concerts. C'était en 92, donc c'était il y a 32 ans maintenant. Et je lui dis, Wayne, regarde, il y a un gars qui jouait, que j'adorais, j'avais en disque. Et je lui dis, on peut aller le voir. Et donc, ça a été le début de notre histoire à tous les deux. Dans la mesure où moi, je n'avais pas le permis, j'avais 19 ans, on avait truqué mon passeport au lieu qu'il est 73, parce qu'à l'époque, les dates étaient écrites à l'encre de Chine, et plastifiées. Et donc, à l'encre de Chine, on avait, à la place du 3, on avait mis un 0. Et donc, quand je me présentais devant les bars, d'un seul coup, j'avais 21 ans ou 22 ans. Et j'étais majeur. Nickel. J'avais le droit de rentrer. Sinon, à 19 ans, je n'avais pas le droit d'entrer. Donc, je montrais mon passeport falsifié. Et donc, ce concert a été le premier d'une longue série que j'ai vu là, dans ce bar en particulier, mais dans d'autres. Mais surtout, une fois que j'ai passé un mois et demi là-bas et que j'ai fait des jams, j'ai rencontré des gens, le jour où je suis parti, j'ai dit à la patronne, je lui ai dit, j'aimerais bien revenir ici et voilà, et revenir. Elle me prend les mains, elle me dit, si tu reviens ici, tu auras du travail. Alors donc, je suis rentré en France et j'ai mis cette graine quelque part dans un endroit très précieux de ma tête et j'ai laissé l'année s'écouler. Mais je suis reparti. Et donc, j'ai bossé comme serveur dans son bar de blues où il y avait des artistes nationaux, vraiment pas locaux, des gars de Chicago, de Californie, de la Louisiane qui venaient. Et donc, elle leur glissait un petit mot. Elle leur disait, vous pouvez appeler le serveur, il se débrouille à l'armo. Et donc, j'ai pu faire le bœuf avec plein de gens. Et après, on avait aussi un ami à Chicago. Et alors, bon, il y a eu plein d'épisodes. J'ai eu la chance de pouvoir passer un an à Minneapolis comme assistant de français dans une université. Ça, c'était en 96-97. Du coup, j'ai enregistré un premier album dans un studio américain avec des musiciens américains. Quand je suis rentré avec ce disque, c'est tombé dans les mains de Philippe Langlois, qui avait le label Dixie Frog à l'époque, et des gens de mon âge et de ma génération qui avaient déjà un pied aux États-Unis, il n'y en avait pas. Donc, en fait, il m'a dit, bon, écoute, il m'a dit, il y a trop d'harmonica dans ton disque, mais si tu en fais un autre, ça peut nous intéresser. Et donc, en 98, je suis reparti et j'ai fait un autre album dans le même endroit avec les mêmes musiciens américains et il a été signé sur Dixie Frog. Et ça a correspondu au moment où je suis rentré, devenu professionnel à partir de 98 en France. Et donc, ça y est, j'avais un album qui était distribué en France, mais aussi en Europe du Nord. Et à partir de 99, j'ai commencé à faire Marciac. Et puis, j'ai eu des opportunités, des portes qui sont ouvertes en Belgique, Hollande. Et là, un agent et tout ça. Et tout est allé vraiment vite, quoi. Et on s'est retrouvés à faire 80, 100 dates par an. Beaucoup. Voilà.
Okay.
Et après, et donc, ce lien avec les États-Unis, avec les clubs de Chicago, j'ai tout le temps voulu l'entretenir. Donc, tout le temps, j'y retourne. Une fois, j'ai voulu vraiment, qu'en tant que touriste, on peut rester que trois mois aux États-Unis. Donc j'avais un très bon ami à Chicago et je lui dis, j'aimerais bien louer ton basement et dormir là. Il me dit, OK. Donc j'ai loué le basement, $50 la semaine. Et je suis resté trois mois. Trois mois, ce qui était 90 jours. Et je suis sorti tous les soirs. J'ai joué 60 soirs ou 70 soirs sur 90. Et j'ai enregistré un live à Boston avec des cadors du blues. Et quand je suis rentré en France, on a enregistré un live ici et c'est sorti un double live qui a été distribué même aux États-Unis. Donc voilà, à chaque fois, j'ai toujours cherché à aller prendre des shoots réguliers. Et encore aujourd'hui, là, je reviens de deux mois et demi passés à Clarksdale, dans le Mississippi. Là, c'était un peu plus pour la guitare, mais finalement, j'ai beaucoup travaillé grâce à l'harmonica. Et puis, je suis retourné à Memphis en janvier parce que j'ai toujours besoin d'aller entretenir, d'aller me tester, en fait, de pratiquer des trucs dans mon coin, mais ensuite d'aller l'exposer et dire, et devant eux, est-ce que ça prend? Est-ce que ça marche? OK, ça marche. Bon, c'est bon, je peux retourner chez moi et continuer mon travail. Et régulièrement, je fais ces allers-retours.
Et c'est faire des rencontres et tisser des liens aussi avec les personnes qui sont là-bas.
Beaucoup, ouais. Et puis après, pour des raisons familiales, j'ai aussi vécu 3 ans en Floride. Donc là, avec un visa d'artiste, donc là, je me suis vraiment installé. Et là, j'ai vraiment travaillé comme un musicien local. Et donc là, j'ai toujours énormément de liens. Et j'y ai, voilà. Donc c'est des liens qui se prolongent dans le temps. Et j'ai aussi à cœur de faire vivre cette expérience américaine à mes musiciens français. Donc à chaque fois que je peux, j'amène à peu près tout le monde dans mon groupe. On est allé aux États-Unis, on a joué sur des scènes américaines, parfois on a fait des compétitions, on a enregistré. Et à chaque fois, je veux que tout le monde ait cette dose, quoi. Que quand on vient faire ça en France, on sache réellement de quoi il en retourne de l'autre côté, en fait.
Et t'as jamais eu envie de t'installer complètement là-bas ?
Non, parce que je crois que j'aime trop la culture française. Voilà. Et si j'ai des amis qui sont partis aux États-Unis à l'âge de 19 ans, 20 ans, et qui ont maintenant plus de temps vécu en Amérique qu'en France, et pour eux, ils ne reconsidéreraient pas rentrer. Mais moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, je suis fan d'histoire aussi, j'ai fait des études d'histoire. Quand on est dans un pays si jeune, et qui plus est en Floride, par exemple, il n'y a pas d'histoire. Sinon, on va la chercher dans les tribus natives américaines. Là, oui, il y a quelque chose de fort. Mais sinon, l'histoire, elle a 70 ans, elle a 80 ans. Donc, ça manque de relief quand on aime, quand on vient de chez nous. Voilà.
Tu as parlé de ton premier album tout à l'heure, Transatlantic Live. On va écouter le morceau Merci, Merci, Merci. Et on s'en reparle juste après. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce morceau précisément? Donc, ça date de 2004 quand même, ça remonte.
Oui, bah cet album, justement, c'est le fameux double live dont je parlais là. Il y a une face qui avait été enregistrée à Boston en novembre et l'autre face a été enregistrée en janvier en France, à Tournon d'Agenais, avec mon groupe français, celui-là, et des cuivres. Et c'est la première fois, enfin, C'était quasiment la première fois que j'avais une section cuivre. Et c'était un gros trip. On est allé jouer au New Morning. On a été filmé. C'est passé sur Mezzo et tout ça. Et après ça, j'ai plus eu de cuivre pendant très longtemps. Et en 2017, l'album que j'ai sorti à l'époque, il y avait toute une section cuivre. C'était un album hommage à James Cotton et c'était la version un peu funkisante, soul de sa musique. James Cotton est un harmoniciste de Chicago, mais qui a baigné aussi dans la musique un peu de James Brown, de B.B. King, tout ça. Donc il y avait toute cette section cuivre. Et on lui a donc rendu hommage dans cet album. Et c'est avec ce groupe que j'ai eu la chance de passer au chapiteau de Marciac en 2018, je pense, ou 17 ou 18. Et pour les 40 ans, en fait. Et on a toujours joué ensemble. Et mon nouveau disque, qui maintenant, du coup, fait que j'en ai 15, mon 15e album, c'est exactement avec la même équipe que celle de 2017. Donc, merci, c'est une reprise, mais avec des Français, enregistrée à Ton Nom d'Agenais, un endroit aussi qui m'est très cher au cœur dans mon histoire. Et c'était mon début avec des cuivres que je prolonge encore aujourd'hui. Voilà.
Oui, parce qu'aujourd'hui, tu vendais un disque, et ce que vous avez proposé sur le bis, c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas encore sorti, c'est ça, un disque qui sortira à l'automne.
Voilà, le disque est fabriqué, j'ai la chance de l'avoir, mais il sortira dans les magasins et sur les plateformes à l'automne.
Salut Véronique. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que donc dans tes formations, là, tu dis il y a eu des cuivres qui se sont ajoutées. Tu joues en solo, tu joues en duo, tu joues en quartet, en big band. Est-ce qu'il y a une formation que tu préfères ou qui vraiment te procure beaucoup beaucoup de plaisir?
En fait, ça paraît être une réponse de Normand, mais toutes les formations me procurent énormément de plaisir parce que je fais pas la même chose avec. Et donc ce que je trouve intéressant finalement, c'est que les gens qui viennent nous voir, quand ils nous voient en quartet, bon voilà, ils voient un certain type de blues. Et puis quand ils nous voient à 8, ils voient encore un autre type de blues qui est beaucoup plus... Parfois, ils regrettent que je joue un peu moins d'harmo parce que c'est très élégant avec les cuivres. En même temps, on transpire bien, mais c'est classieux, quoi. Et alors qu'à 4, ça peut être plus graisseux, ça peut être plus, on peut être plus. Mais maintenant, on rajoute du grade avec les cuivres aussi, donc c'est cool. Mais c'est vrai que la formule à 4 comme ça, c'est la formule historique des petits clubs de blues en quelque sorte. Tout le monde est irremplaçable quand on est 4. Quand on commence à être 5, il y a une deuxième guitare ou il y a un piano. Voilà, on peut toujours ajouter plus. Mais là, cette formule, c'est le combo, l'os, quoi. C'est le squelette du Chicago Blues. L'harmonica, la guitare, basse et batterie. Et quand je joue en duo avec Michel, ce qu'on a fait depuis 30 ans, parce que je connais Michel Foison, et c'est lui qui m'a fait avoir mon premier concert payé, en quelque sorte. C'était en 92, ça aussi, ça remonte à loin. Donc... quand on joue en duo, ben, on se fait plaisir à jouer et des standards et des trucs plus Mississippi. Michel, il est capable de tout jouer. Et quand je joue tout seul, eh ben, j'ai composé aussi beaucoup de chansons dans mon histoire. Et il y a tout un tas de chansons maintenant que je peux me réapproprier à ma façon. Et j'adore cette sensation. Et les gens qui viennent me voir en solo, souvent, ils repartent assez touchés, en fait. Surpris et ému en réalité par de m'avoir vu tant travailler, non, c'est pas ça, mais ému de, je sais pas, un truc plus personnel encore que j'arrive à transmettre.
Plus intime peut-être.
Voilà, c'est ça. Donc toutes ces formations, elles me procurent des plaisirs identiques et différents.
Donc il faut aller te voir en toute formation confondue. Voilà.
Ben voilà, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je me dis toujours que je veux pas que les gens voient. Jamais je ne fais le même concert deux fois. Ça n'existe, je n'ai jamais fait. On n'a pas de setlist. On avait une setlist, je pense, quand on est monté au chapiteau, à Marciac. Parce que bon, là, quand même,
il y avait du monde,
il y avait un timing. Et puis, des fois, ce n'est pas facile de communiquer. Parce que si je tourne la tête à droite pour dire le morceau aux uns, à gauche, ils n'ont pas entendu. Donc,
et la scène est immense.
La scène est grande. Donc, voilà. Mais sinon, j'aime travailler comme ça parce qu'on est en pleine... interaction avec les gens, prise directe. Je crois que les gens le voient aussi, que le concert, il est fabriqué devant eux, pour eux, en fait.
Et c'est comme ça qu'on ne s'ennuie pas aussi, qu'il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas de répétition. Pour vous, ça doit être hyper important.
Pour mon groupe, parce que tout le monde, il garde toujours les yeux sur moi, parce qu'il peut se passer un peu n'importe quoi, en fait. Et donc, ça permet que tout le monde, que personne s'endorme, que personne joue sur des automatismes. C'est, il y a rien de pire en fait, jouer sur des automatismes. Donc.
Tu as parlé de Michel Foison tout à l'heure. En 2014, donc il y a eu un album que vous avez fait ensemble. Il s'appelle On the Go, et on va écouter You Can Leave Your Hat On. Ah, et après, ouais, on s'en reparle. Suspicious minds are talking. They're trying to tear us apart. They say my love is wrong. They don't know what, they don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is, but I know what love is. Et alors, raconte-nous, donc, tu étais en train de me dire en off que ce live, en tout cas ce qui a été enregistré, c'était assez exceptionnel, c'était en Floride.
Oui, c'était un studio chez un DJ qui est collectionneur de disques. Donc les gars, on enregistrait au milieu de rayonnage de disques, il y en avait, je sais pas, 15 000 au moins, et dans des cartons, dans des boîtes, et partout sur les rayons. Et donc nous, on faisait notre musique au milieu de tous ces disques-là. Là-bas, on rencontre beaucoup de gens qui sont fondus de son, de vieux matériel. Et puis, le matériel souvent qu'on exploite, c'est du matériel qui vient de chez eux, en fait. Donc, eux, ils sont aux premières loges pour l'avoir. Nous, voilà, maintenant, grâce à eBay, tout ça, on récupère des trucs, mais eux, ça fait 40 ans qu'ils ont... Donc, ils avaient une machine à bande sur laquelle on enregistrait. Voilà, c'est super souvenir. Et on a fait ça avec Michel, justement, il y a 10 ans.
Alors, dernier album en date, avant celui que là tu as pu présenter et qui sera à vendre et qui arrivera à l'automne, c'était en 2022, c'était Burning Light. On va écouter Remembering John Campbell, et c'est un hommage à ce chanteur et guitariste de blues américain, et puis on va le laisser passer. Thank you. Waouh, je suis vraiment impressionnée de notre technicien Antoine Dambras qui est très fort pour découper comme il faut les morceaux.
Ouais,
bravo Antoine, ouais, bravo Antoine. Est-ce que tu peux nous parler de cet album? Quelle est la genèse de cette envie de sortir ce nouvel album en 2022?
Donc en fait, en 2017, parce qu'il y a toujours des raisons.
Toujours.
Donc en 2017, j'avais fait ce gros projet qui était avec les cuivres sur James Cotton. Et il n'y avait aucun morceau à moi là-dedans. C'était que des reprises. C'était super. Mais quand on est en construction de carrière, on ne peut pas se contenter. Enfin, on peut faire un coup comme ça, mais il faut pas le renouveler. Donc après, je me suis dit, bon, voilà, il faut sortir un nouvel album. Et j'avais l'impression de ne pas avoir d'idée. Et donc, est arrivé 2019. Bon, là, maintenant, ça a commencé à être pressant de se dire, bon, un nouveau disque. Et 2020, boum, confinement. Donc, bon, tout était à l'arrêt comme ça. Et là, j'ai commencé à travailler la guitare et je me suis dit, en fait, si je veux être honnête avec moi-même, il y a un seul truc que j'ai envie de faire maintenant, c'est un album solo. Mais je n'avais pas le niveau, enfin. Mais ça m'obnubilait. Je ne pouvais pas imaginer de faire autre chose. Il n'y avait que ça qui comptait. Et donc, j'ai travaillé. Et donc, j'ai composé des chansons. J'ai repris des chansons que j'avais écrites, mais que d'autres guitaristes avaient jouées sur mes disques anciens. Et j'ai fait ce disque en solo. Voilà.
Classe, avec beaucoup de travail alors.
Beaucoup de travail en amont. Mais j'ai jamais eu l'impression que c'était du travail en fait. Mais en réalité, je sais que c'est beaucoup de temps. Mais c'est jamais, quand on aime, c'est jamais du travail en fait.
Ouais.
Mais mis bout à bout, c'est des tas et des tas d'heures évidemment. Mais à se faire plaisir en fait,
avec
à jouer
quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ça fait 25 ans que tu viens à Jazz in Marciac, peut-être même un peu plus. Quel est un peu ton lien avec ce festival?
Je sais pas, 25 ans. Je sais pas, ça s'explique pas, c'est fou. Mais c'est un bonheur à chaque fois, l'été arrive et je me dis, est-ce qu'il y aura un Marciac cet été? Et il y en a beaucoup. Et alors, j'ai joué un peu avec le feu parce que j'ai eu la chance d'être beaucoup programmé par le festival. Mais quand j'étais pas programmé par le festival, et c'était bien normal, il faut
changer.
Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est autant programmé avec autant de régularité, quoi. Donc, je pactisais avec la petite auberge. Et donc, j'ai élu domicile à la petite auberge, mais plein de fois. La première fois, ça a été pendant 5 jours. Ça a été en 2007. C'était extraordinaire. Parce que là, on vit des moments fantastiques sur la grande scène, sur cette scène, sur une plus grande. Mais on vit aussi des moments de musique et des moments humains hallucinants sous une terrasse, en fait.
Complètement.
Donc, c'est vrai que, si je suis très honnête, le salaire n'est pas le même. Et la visibilité, tout ça, mais en tant que bonheur, franchement, c'est énorme. Donc, la petite auberge a été un endroit où j'ai beaucoup joué quand j'étais pas au festival. Et le plus beau que la petite auberge m'ait permis de faire, c'est de m'avoir programmé une fois 10 jours.
Waouh.
10 jours d'affilée. C'était une fiesta monumentale.
Sans arrêt.
Et pendant les 10 jours, j'avais un guest différent pendant 2 jours. Et au début, les 4 premiers jours, j'ai eu un guest américain que j'ai fait venir, un guitariste qui était avec Magic Slim, qui on a joué ensemble aux arènes en 2000 ou 2001. Et il est venu, Michael Dodson, et on a fait 4 jours. Et après, j'ai eu un guitariste espagnol qui est venu, un guitariste bordelais. Enfin voilà, et ça a été un moulin de blues pendant 10 jours. Ça restera un souvenir mémorable pour moi. Et donc là, dernièrement, quand j'étais tout seul en solo, j'ai été programmé à la petite auberge il y a 2 ans et l'année dernière aussi. Donc c'était super, voilà.
Donc finalement, il n'y a pas d'été sans Marciac en tout cas.
Ça a dû arriver, mais deux, ouais, c'est ça. Ouais.
Dernière question et après on te laisse. Comment on fait pour avoir, quel est le secret pour avoir encore de l'inspiration au bout du 15e album?
Et il faut remettre les compteurs systématiquement à zéro et partir de rien et se dire que on n'a rien fait. Enfin, en réalité, j'écoute beaucoup ce que j'ai fait pour être bien conscient du chemin que j'ai fait et en me disant, s'il doit y avoir un nouveau, il faut qu'il amène quelque chose. Sinon, si c'est pour refaire ce que j'ai déjà fait, ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire, OK, en même temps, on repart de zéro. Je, ok, je joue de l'harmonica peut-être, mais c'est, ok, c'est Chicago Blues peut-être. Mais en fait, je vais, dans ma tête, c'est comme s'il n'y avait rien. Et il faut que ça sorte de loin. C'est pour ça que des fois, j'attends. En fait, je m'oblige pas. Après, quand ça vient, je peux sortir des chansons, plusieurs chansons par semaine. Quoi. Ça peut venir vite, en fait. Mais des fois, attendre ce moment où on a un truc nouveau à dire, on a une vraie raison de faire un disque, en fait. Voilà, c'est ça. Ça sert à rien c'est pour ça que dans la carrière discographique, là, je me souviens avec Dixie Frog, il fallait sortir un disque tous les 2 ans. Et c'était intéressant, cette obligation. Parce que là, on est dans une production. Alors là, du coup, on cherche différemment. On n'a pas le temps d'être autant introspectif. Et puis, comme on a l'obligation, la tête, elle cherche vite. Là, maintenant que je suis un peu en autonomie pour l'instant, je fais à mon rythme, en fait. Et donc, pour l'instant, je procède de cette façon-là.
C'est génial. Merci beaucoup, Nico Wayne Toussaint. Merci pour cette interview. Merci pour tous ceux qui auront écouté. C'est la fin de cette 17e émission. Il ne reste plus qu'une émission, c'est demain. Alors, on espère que vous serez très, très nombreux. C'est toujours à 13h et ce sera une émission spéciale bénévole pour les remercier de tout leur travail qu'ils ont fait pendant ces 18 jours de festival. Et on se quitte donc avec les témoignages, puisque oui, il y a toujours la cabine où on voit des gens dedans tout de suite, où vous pouvez laisser vos messages sur ce super beau téléphone vintage. Et nous, après, on en fait des podcasts. Et là, on vous fait écouter les témoignages d'hier et on se dit à demain. Ciao, bye bye. Les échos de la cabine.
La minute témoignage.
Bonjour. Voilà, c'est la première fois que je viens à Marciac. Je suis un peu un jeune musicien et ce festival a un peu changé ma vie. Il a changé, bouleversé en fait. Un peu la façon que j'avais de percevoir la vie et le temps.
Alors j'adore vraiment, vraiment, vraiment trop Marciac. Je trouve que c'est impressionnant, l'ambiance, c'est vraiment unique. J'y suis, je fais du violon, j'ai 8 ans, je m'appelle Océane avec ma famille. Je suis au camping du lac. J'adore vraiment, mais vraiment trop. C'est trop chouette. J'aimerais aussi jouer sur des scènes. Peut-être que je serai plus grande ou être bénévole, j'ai vraiment envie de rester ici toute ma vie.
2, 3. Nous sommes les bénévoles de Jeff à la cuisine de Jeff.
Bon, c'est raté, on recommence.
Émotion, liberté, jazz, gaieté, homosexualité et sodomie.